Vous êtes sur RTL.
Continue à parler de Carlos Ghosn avec vous, Catherine Boulay, RTL, déjà demain. Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire dans la presse de ce mercredi?
L'Obs qui nous dévoile le dernier secret de Carlos Ghosn.
On
un secret qui éclaire d'un jour tout à fait nouveau le destin extraordinaire de l'ex-patron de Renault-Nissan. Un secret qui ne figure dans aucune de ses biographies pourtant nombreuses. Suspense. Son père, George Ghosn, était trafiquant de diamants et il a été condamné à mort pour meurtre. Tout se passe une nuit de 1960 à Beyrouth et George Ghosn veut intimider un client un peu trop gourmand. Alors pour ça, il part à sa rencontre avec un homme de main. Mais l'entrevue tourne mal, le client finit avec une balle dans la tête. Tiré par le complice, c'est en tout cas ce que répétera toujours George Ghosn, tout de même condamné à 15 ans de prison. En détention, son complice s'échappera en sciant les barreaux de sa fenêtre. Pour George Ghosn, la suite est complètement opaque. À Beyrouth, on raconte qu'il aurait été amnistié, puis réemprisonné ensuite pour avoir fabriqué de faux billets. Et ensuite, sa trace est définitivement perdue.
En tout cas, il n'a pas été exécuté par la justice.
Sa peine n'a pas été exécutée. Ouais, ouais. Et lui, il n'a pas été exécuté non plus. Le père de Carlos Ghosn se serait volatilisé dans les années 70, au début de la guerre civile, quand les portes de prison se sont ouvertes. Et il n'exécutera donc pas sa peine, comme on le disait tout à l'heure. Au-delà de cet héritage en matière d'évasion, le plus surprenant, c'est qu'au Japon, Carlos Ghosn s'était largement raconté dans 30 articles en 2017, son enfance, son adolescence, sa prise de pouvoir dans l'automobile, mais pas un mot sur cet épisode. L'article est signé Clément Lacombe et il est déjà en ligne ce soir sur le site du Nouvel Obs.
Là, je suis obligé d'appeler SOS Psychanalyse, là, ça, c'est Gérard Miller.
Oui, non, mais c'est pas... Vous savez, quand on regarde sur les grands hommes, je me souviens que j'avais toujours été frappé que le père de Raymond Barre, qui était supposé être le plus grand économiste de France, était un homme qui avait fait faillite. Ouais. Et je me disais toujours qu'il y a quand même peut-être un lien entre le destin de l'un et le destin de l'autre. Donc il y a peut-être effectivement un lien entre les deux. Mais c'est jamais des liens de cause à effet.
Il faut lire Anancelin Schlumberger, justement, qui voit dans l'ADN que s'impriment les histoires familiales et les répétitions aussi. C'est un truc de psychanalyse, ça. Parce que l'évasion, elle est forte, là aussi. Hein.
Et la question, c'est pourquoi il n'en parle jamais?
Ah, ça, c'est...
Il préparait peut-être, son coup pour aujourd'hui.
Peut-être qu'il préparait un livre. Qui préparait peut-être un livre 40 ans plus tard sur son destin. C'est un personnage, il est devenu un personnage de roman, donc il pourrait en écrire un sur son roman personnel.
Voilà, en tout cas, ce sont des révélations à lire dès ce soir sur le site de l'Obs en ligne. Qu'est-ce que vous aimeriez vous voir dans la presse de demain? Quel serait votre choix?
La semaine de 4 jours.
Eh ben, allons-y.
Voilà, du lundi au jeudi. Idée poussée par la jeune première ministre finlandaise de 34 ans, Sanna Marin. Elle a fait campagne sur cette idée et elle voudrait l'instaurer dans son pays. Parce que, dit-elle, plusieurs expériences vont dans son sens, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et même au Japon. Dans chaque cas, les entreprises l'ont testé et ont constaté, 1, une augmentation de la productivité des salariés qui va de 20 à 40%, une baisse du stress de moitié, mais aussi il y a un autre avantage écologique cette fois, à la semaine de 4 jours, la baisse de l'empreinte carbone. Pourquoi? Eh bien parce que le salarié fait moins de trajets et que ça lui laisse plus de temps pour faire les courses, acheter de bons produits... Et pas des produits réchauffés au micro-ondes, vous savez, des plats tout préparés. Bref, encore un secret bien gardé.
Céline, si vous bossez que 4 jours, il faut quelqu'un pour faire le job le 5e jour. Donc l'empreinte carbone, qui est pour la semaine de 4 jours? Ici, on va faire un test.
Mais si vous gagnez en productivité
Ça dépend de la productivité, en fait.
Ouais.
Moi, je suis absolument pour, oui, bien sûr.
Vous êtes pour la semaine de 2 jours, vous, non?
Non, 4 jours, me semble raisonnable.
Oui, je ne sais pas bien comment on augmente la productivité tout en diminuant le stress en même temps. Je reste dubitative. Et pour le reste, ça paraît dicté quand même par des considérations un peu idéologiques.
Et ça,
je suis pour le retrait de la semaine tout court.
Dans un premier temps, c'est RTL Soir qui va se retirer. En tout cas, on refait le monde. Et merci à vous tous d'être venus participer ce soir. Dans un instant, c'est l'heure du crime. Lui, il est là toute la semaine. C'est Jacques Pradel. Bonsoir, Jacques.
Mais oui, bonsoir, Thomas.
Quel est le programme ce soir?
Alors, ce soir, l'histoire d'un meurtre. Le meurtre d'une lycéenne de 16 ans, Evelyne Boucher. C'était en 1987 à Villeneuve-les-Avignon. Et puis, il y a eu dans cette affaire un énorme coup de théâtre en 2006. Après 19 ans de mystère, un homme est arrêté à la suite d'une comparaison ADN. Mais malgré ses dénégations, il est condamné à perpétuité. Mais il va demander la révision de son procès.
Merci beaucoup, Jacques. L'heure du crime, c'est à 20h, juste après le journal avec Sébastien Rouxel. À tout de suite.
À tout à l'heure.